Les infos insolites.
Par Nicolas Baltic.
Bonjour à tous et à chacun, Nicolas Baltic, je suis très heureux de vous accueillir à l'écoute de cet épisode 58 des infos insolites. Alors tout de suite, partons en Italie. En Italie, où un trafiquant de drogue a été interpellé par les gendarmes de Gênes après avoir constaté la présence assez surprenante de clients chauves dans son salon de coiffure. C'est un scénario assez grotesque qui a été rapporté par La Repubblica. Alors, son établissement avait attiré l'attention des autorités locales qu'il avait d'abord placé sous surveillance. En effet, les allers-retours de personnes dégarnies dans un salon de coiffure et qui en ressortent aussitôt, c'est assez particulier.
Chez Max, coiffeur pour homme, où un jour j'entrais comme, par hasard, me faire raser la couenne et rafraîchir les douilles.
Au cours de la surveillance, les soupçons des carabiniers de Gênes ont pu constater que certains clients se rendaient chez le coiffeur uniquement dans le but d'acheter de la drogue, tandis que d'autres, en plus de la coupe, demandaient également à acheter une ou plusieurs doses. Dès que les faits ont pu être confirmés, le domicile du trafiquant a été perquisitionné. Les enquêteurs ont alors trouvé plusieurs grammes de haschich. Eh oui, c'était du sérieux en plus. Du côté du salon de coiffure, pas moins de 100 grammes de cocaïne ont été découverts, ce qui est déjà plus sérieux, ainsi que 4 balances et du matériel utile à l'emballage des drogues. L'homme a été incarcéré. Crime encore. Au printemps 2021, Thomas Randler, un homme de 70 ans atteint d'un cancer du poumon en stade terminal, a décidé de livrer à sa fille Ashley le secret qui le hantait depuis tant d'années. « Quand j'avais 20 ans, j'ai volé une banque de l'Ohio pour un butin de 215 000 $.» Les septuagénaires lui alors dévoilé que son nom n'était pas Thomas Randler, mais Theodore Conrad, appelé Ted Conrad. Conscient de l'importance du secret qu'il venait de révéler à sa fille, l'homme l'avait supplié de ne pas faire de recherches sur son passé. Mais la tentation était trop grande. « J'étais seul dans la chambre de mon enfance et j'ai recherché sur Google Ted Conrad disparu. Il y avait des centaines d'articles sur lui », a-t-elle déclaré à la chaîne d'information CNN qui a médiatisé l'histoire. Alors au cours de ses recherches, Ashley a ainsi découvert que son père avait commis l'un des plus gros braquages de Cleveland, inspiré de son film préféré, l'affaire Thomas Crown, et c'est ce qui a notamment fait réagir la toile. Au moment des faits, en 1969, il avait dérobé l'équivalent d'environ 2 millions de dollars. Alors qu'il travaillait dans cette banque en tant que guichetier, il serait parvenu à ses fins en profitant du manque de sécurité pour sortir avec l'argent qu'il aurait caché dans un sac en papier. Il était ce soir le dernier agent à quitter le bâtiment, ce qui a pu faciliter l'opération, car les autres employés ne se sont rendus compte du vol que 2 jours plus tard, lui laissant le temps de s'enfuir. Et de cette manière, Ted Conrad a pu refaire sa vie sous une nouvelle identité dans le Massachusetts. En s'installant près de Boston, le fugitif suivait ainsi le parcours du braqueur de l'affaire Thomas Crown. Il s'est finalement éteint en mai 2021, 2 mois après ses aveux, et n'a donc jamais été inquiété par les autorités. En effet, sachant l'état de santé critique de son père, Ashley, ainsi que sa mère, ont choisi de ne pas le dénoncer. Le secret a finalement été découvert par la police en novembre. Quelqu'un avait en effet envoyé l'avis de décès à un journaliste judiciaire de l'Ohio en indiquant qu'il pourrait peut-être s'agir du criminel recherché. Des agents se sont ainsi présentés au domicile de la famille Randley pour leur faire part de leurs informations tout en expliquant que les deux femmes ne seraient pas inquiétées et qu'ils ne poursuivraient pas l'enquête.
As the images unwind, like the circles that you find in the windmills of your mind.
Revenons en Italie où un virage surprenant nous a surpris. Alors qu'Edoardo Santini, un jeune homme de 21 ans, avait une carrière qui semblait toute tracée, il a décidé de dévier et de se consacrer à sa foi et de rejoindre le séminaire dans l'objectif de devenir prêtre. Alors jusque-là, rien de spécialement étonnant, mais Edoardo étudiait le théâtre et la danse depuis son plus jeune âge, désireux de travailler dans le métier de la mode et de la musique. En 2019, même l'adolescent, qui était alors âgé de 17 ans, avait été élu l'homme le plus beau d'Italie, lors d'un concours organisé par un groupe de mode. Mais Edoardo Santini a renoncé à cette voie royale et c'est vers un chemin diamétralement opposé qu'il a décidé de se tourner. « Je suis sur le point de devenir prêtre, si Dieu le veut », a-t-il déclaré en annonçant son arrivée dans un séminaire. « J'ai eu l'occasion de rencontrer des jeunes qui m'ont donné la force d'approfondir cette question que je porte en moi depuis que je suis tout petit, mais que diverses peurs m'empêchaient d'explorer davantage », a-t-il expliqué à ses fans. L'étoile montante sur Instagram aux milliers d'abonnés a par ailleurs révélé avoir vécu avec de prêtres qui m'ont nourri et qui ont nourri mon désir d'engagement dans la voie religieuse.
Moi qui n'intéresse personne, pas plus les cardinaux de Rome que mes paroissiens qui se donnent.
La nouvelle avait fait le tour du monde, il me semble même que je vous en avais parlé ici en septembre 2019, alors qu'il était exposé au palais de Blenheim en Angleterre. Un chiotte en or massif, imaginé par l'artiste italien Maurizio Cattelan, avait été volé.
Je dis merci, encore et sincère merci, à ceux qui ne font pas pipi, pipi dans Paris. Pipi dans Paris.
Et il aura fallu attendre novembre de cette année pour que 4 suspects soient appréhendés par la justice britannique qui les a inculpés de plusieurs chefs d'inculpation, évidemment. Ils comparaissaient le mercredi 28 novembre devant les tribunaux du pays pour répondre de leurs méfaits. Alors il faut dire que cette œuvre insolite coûte quand même très très cher, 4,8 millions de livres pour être exact, soit pas loin de 5,5 millions d'euros. À ce prix, America, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, est composé d'un siège, d'une cuvette et d'une chasse d'eau constituée d'or 18 carats et en parfait état de marche et avait de quoi attiser les convoitises. L'artiste italien de 58 ans, l'origine de la sculpture, qui présentait son œuvre comme égalitariste, expliquait dans Le Monde au moment du larcin qu'il s'agissait en fait de l'art du 1%, incluant les personnes les plus riches du globe, pour les 99 autres pourcents, quoi que cela veuille vouloir dire. Et c'est dans la nuit du 13 au 14 septembre 2019 que le vol avait été commis, entraînant un parieur d'importants dégâts et une inondation dans le palais de Blenheim, un château baroque du sud de l'Angleterre qui est quand même classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, où l'œuvre d'art était raccordée à la tuyauterie et pouvait être utilisée, mais attention, pour une durée maximale de 3 minutes, par les visiteurs du musée. Et avant de trôner dans la région anglaise de l'Oxfordshire, America avait élu temporairement domicile au musée de Guggenheim à New York et avait vocation à rejoindre la Maison Blanche sous la présidence Trump avant que ce projet ne soit stoppé pour des raisons électorales, vous vous en doutez. Partons chez les Bataves. L'amour rend parfois aveugle, mais pas cette fois-ci. Une femme, en effet, identifiait son mari dans une émission dédiée aux faits divers sur une séquence concernant un cambriolage et l'a contraint à se rendre aux autorités. Alors que le couple avait décidé de regarder la télévision à son domicile de La Haye, ce mardi 14 novembre, l'homme, âgé de 55 ans, a choisi de mettre « Osporing Verzort ». C'est une émission créée par un groupe audiovisuel batave, le ministère public et la police des Pays-Bas, qui s'est attardé sur le cambriolage d'une bijouterie survenue le 15 juillet dernier. Lors de la diffusion des images de cambriolage, sa femme l'a immédiatement reconnue et l'a forcé à se rendre pour son crime. Elle nous l'a immédiatement amené au poste, a indiqué la police de Schwenfingen sur Instagram, félicitant la femme du cambrioleur, mais également l'émission. C'est une émission d'utilité publique aux Pays-Bas, paraît-il. Près de 40% des enquêtes diffusées par Osporing Verzort ont pu être résolues chaque année. Moi, je me poserais quand même des questions sur la délation des Bataves, mais bon, c'est un autre sujet. Un étrange record du monde au cœur du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Un soldat ukrainien servant dans les services spéciaux de l'Ukraine a indiqué avoir abattu le record du tir mortel le plus lointain effectuée à 3,8 km de distance de sa cible russe.
Entraîné depuis des années à sniper, c'est pas un archer ni un boucher qui va me stopper.
Le soldat, dont l'identité est inconnue pour des raisons de sécurité assez évidentes, aurait effectué ce tir avec un fusil sniper personnalisé et fabriqué en Ukraine, nommé Lord of the Horizon. Plusieurs vidéos montrant trois soldats russes alignés avant que l'un d'eux ne s'effondre quelques secondes après le coup de feu ont été diffusées. Alors aucune information plus précise n'a été donnée sur le lieu et la date de ce tir record, mais le service de sécurité ukrainien a indiqué que les tireurs d'élite réécrivaient les règles du tir d'élite mondial, démontrant que des capacités inégalées à opérer efficacement à des distances remarquables. Et le record officiel est détenu pour le moment par un soldat canadien des forces spéciales lors d'un tir effectué en Irak en 2017. Selon les rapports, ce précédent record était d'une distance de 3,5 km. Revenons en France où une situation insolite handicape les Morétins au quotidien. Alors les Morétins sont les habitants des villages qui ont été regroupés d'Écuelles, d'Épicy, de Montarlot, de Veneux-les-Sablons et de Moret-sur-Loing pour créer la ville de Moret-Loing et Orvanne. C'est en Seine-et-Marne. Et ça a été créé le 1er janvier 2017, ce qui remonte quand même à un petit moment. Alors ce qui s'est passé en fait, c'est que la nouvelle commune a recensé à la fin octobre de cette année 75 odonymes doublons, c'est-à-dire des voies de circulation qui ont des noms identiques. Et en ville, on a ainsi 4 rues de l'Église, 2 rues de la République et 2 rues du peintre Sisley notamment.
Toutes les rues de cette ville portent des noms très ennuyeux, des noms anciens et difficiles, donnés par des gens trop sérieux.
Outre des difficultés pour les administrés à se localiser sur Internet, cette situation engendrait un problème plus grave encore, et notamment au moment des cadeaux de Noël, puisque l'acheminement des colis et des courriers délivrés par la Poste devient problématique. Alors la Poste a notamment mis en place une ligne spécifique sur l'adresse postale indiquée afin de mentionner le nom du village initial où se situe la rue de la livraison. Et tout le monde prend ça très au sérieux, hein, nous dit-on. La municipalité a élaboré un questionnaire qu'elle a ensuite envoyé aux riverains des rues concernées. Ces derniers doivent y répondre avant la fin du mois. Cette réflexion a été initiée en 2020. Cette démarche est une vraie nécessité après les fusions successives et doit permettre de répondre aux plaintes des administrés, a expliqué le directeur du cabinet du maire à unmediaactu.fr. Alors ce document a pour ambition de regrouper les problématiques rencontrées par chaque riverain sur ce sujet, ainsi que l'impact réel de ces dernières sur le quotidien des Morétins. La dernière utilité de ce questionnaire est de permettre aux administrés de donner de nouveaux noms de rues à celles en doublon, et la mairie va ensuite organiser, après la réception de l'ensemble des questionnaires remplis, la création d'un comité de concertation composé d'élus, de citoyens et de techniciens municipaux, et ce comité décidera donc après concertation les noms des rues retenues afin de clore ce chapitre insolite. Donc la fusion 2017, le problème est devenu sérieux visiblement pour l'administration en 2020, nous sommes quasiment en 2024 et on n'a toujours pas réussi à trouver 75 noms de rues pour éviter les doublons. Bravo les artistes! Et j'ai envie de vous parler d'une mésaventure culinaire. Les passagers de la classe affaires d'un vol de la compagnie China Eastern Airlines ont une surprise de taille. Sur le menu de leur dîner, ils ont découvert que parmi les entrées proposées se trouvait de la nourriture pour chien au gombo. Oui, le gombo est un fruit.
Ragoutoutou. Qu'est-ce que ce cabot de troisième ordre? Je ne parle pas du chien, qui lui est excellent. Viens foutre dans ce merdier, voulez-vous me le dire?
Et c'est un passager de l'avion qui a partagé la photographie du menu en question sur un réseau social Facebook en interrogeant la compagnie. Qu'est-ce que c'est qu'exactement? Une publication qui a été très commentée par les internautes. La nourriture pour chien, c'est toujours mieux que le chien, a ironisé l'un d'eux. Si l'on ne sait pas exactement quel était le plat servi, il pourrait tout simplement s'agir d'une erreur de traduction du menu du chinois vers l'anglais, en témoignent d'autres intitulés de plats, puisqu'on leur a servi notamment des crevettes à la vanille ou encore l'aileron de requin au jus de champignons frits. Toutefois, contacté, la compagnie aérienne a refusé de fournir le moindre commentaire. Bouffe encore et transport encore. Alors vous savez que la gastronomie est décidément l'apanage des Français, nous en sommes très fiers. Et ce n'est pas une vidéo qui a été diffusée il y a quelques semaines sur les réseaux sociaux qui contredira cette idée largement répandue. Sur le document partagé sur Twitter, on peut en effet apercevoir un chef parisien, Julien Gollet, en train de se concocter un sandwich au foie gras, aidé de sa carte vitale qu'il utilise comme un couteau. Et très rapidement, les images ont fait le tour de la toile. C'est pendant qu'il voyageait sur un TER de la région Bourgogne que Basile Viau, qui se présente comme l'employé d'une agence de publicité à Paris, a capturé la scène. Sur les images filmées, on aperçoit donc le chef Gollet en train de trancher du foie gras au moyen de sa carte vitale. De quoi susciter des réactions amusées sur les réseaux sociaux, sur la publication, plusieurs centaines de commentaires. Toujours avoir foi en sa carte vitale. Manque plus qu'un verre de vin et t'as la complète. Y a pas plus français que ça, peut-on par exemple lire. D'autres internautes ont également questionné la qualité du foie gras qui s'émiettait selon eux comme du parmesan. Et ce n'est pas la première fois que Julien Gollet est à l'origine d'un buzz. En 2021, il avait déjà fait sensation en dégustant un plat de pâtes à la truffe accompagné d'un verre de vin rouge dans un TGV. Un repas de qualité donc, aux antipodes de ceux qui sont d'habitude proposés à la vente dans les wagons-bars ou dans les gares. L'ancien Premier ministre Édouard Philippe s'est vu décerner mardi le prix Presse Club Humour et Politique 2023 pour un trait sur la transformation de son apparence physique du fait de ses maladies auto-immunes.
Et puis après, si vous pensez qu'il faut être playboy en France pour être élu, j'ai quand même quelques contre-exemples.
Hein. Avait déclaré le maire du Havre et président du parti Horizon lors de l'émission Quotidien à TMC le 27 mars 2023. Édouard Philippe succède au secrétaire national du Parti communiste Fabien Roussel, qui avait déclaré en 2022 « La station essence est le seul endroit en France où celui qui tient le pistolet est aussi celui qui se fait braquer ». Monsieur Roussel obtient d'ailleurs cette année le prix de la récidive avec une nouvelle CI. Il ne suffit pas de s'abonner à PIF pour connaître les intentions du gouvernement. Il faut aussi s'abonner à Playboy. Ce tweet faisait l'allusion évidemment à la parution l'hiver dernier, à quelques jours d'intervalle d'une interview d'Emmanuel Macron dans le magazine pour jeunes PIF, suivi de celle de la ministre Marlène Schiappa dans Playboy. Le prix du jury, présidé par le journaliste Bernard de la Villardière, a été attribué à un autre ancien Premier ministre, François Fillon. « Si j'ai envie de vendre des rillettes sur la place rouge, je vendrai des rillettes sur la place rouge », avait déclaré en mai l'ancien candidat à la présidentielle lors de son audition par la commission d'enquête parlementaire à l'Assemblée nationale sur les ingérences étrangères, alors qu'il était interrogé sur ses liens avérés avec Moscou. Si les visiteurs de la ferme Dumble dans le nord de l'Angleterre viennent de loin, ce n'est pas pour acheter du lait ou du fromage, mais pour faire un câlin à Morag, une imposante vache Highland, et à ses compagnes.
Ma vache à grosse. Ma vache à grosse. Et rentre dans le pré pour la faire passer. Il faut la pousser. Ma vache à grosse.
Fiona Wilson et ses collègues de la ferme ont commencé à proposer des séances de câlins avec leurs vaches en février, quand il est devenu clair que leurs difficultés économiques n'étaient pas prêtes de s'arranger. Certaines personnes aiment le contact avec les chiens, les chats ou les chevaux. D'autres préfèrent être avec des vaches, dit Fiona Wilson à l'AFP. Les gens viennent pour leur bien-être. Être en compagnie d'animaux soulage l'anxiété. C'est presque comme une thérapie. Comme tant d'autres éleveurs, les propriétaires de la ferme Dumble près de Beverly, dans l'est du Yorkshire, ont été violemment frappés par la chute brutale du prix du lait, ainsi que plus récemment par la forte inflation, sans même parler du Brexit. Évidemment, faire payer pour câliner des vaches, c'est un business comme un autre.
Le jour dans sa cuisine, elle est si mauvaise, mais le soir au lit, il faut bien que je la prends.
Partons en Asie avec une bagarre qui aurait pu coûter très cher. Le 24 novembre dernier, un Vietnamien de 35 ans s'est rendu aux urgences de l'hôpital de Dong Hoi car il venait de perdre subitement la vue. Une fois sur place et après avoir réalisé un scanner, c'est la stupeur chez les médecins qui découvrent en effet deux baguettes chinoises, genre pour manger, enfoncées profondément dans le nez jusqu'à son crâne, rapporte Midi Libre. Définitivement très au courant de ce qui se passe en Asie, c'était le vendredi 1er décembre. Alors tout a commencé 5 mois plus tôt, en juin dernier, lorsque l'homme s'est battu après une soirée arrosée dans un bar. Alors transporté à l'hôpital à ce moment, les médecins n'ont détecté aucune blessure chez le patient qui avait lui-même oublié s'être fait enfoncer deux baguettes chinoises par son adversaire cette soirée-là. De retour chez lui, le trentenaire a commencé à souffrir de maux de tête persistants ainsi que de nombreux saignements des narines. Il ne s'est pas affolé, hein, puisque c'est seulement fin novembre, alors que son nez le dérange à nouveau, que l'homme, avec une pince à épiler, se gratte l'intérieur du nez et touche quelque chose de dur, c'est les baguettes. Ce mouvement lui a causé une pneumocéphalie sous tension, entraînant la perte temporaire de sa vue. Les médecins préconisent alors une intervention rapide avec une chirurgie endoscopique par le nez. Les deux baguettes chinoises ont pu être retirées et l'état de santé de l'homme de 35 ans s'est amélioré. Il a retrouvé la vue et il est hors de danger. Par contre, il devrait quand même peut-être travailler un peu à ses problèmes de mémoire.
J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Comme il était très musicien, il jouait beaucoup des mains.
Georgia Robinson se serait volontiers passée de cette mauvaise surprise. Alors qu'elle se trouvait aux obsèques de sa sœur le 3 novembre dans l'état du Mississippi, elle s'est aperçue juste avant la cérémonie que le corps qui se trouvait dans le cercueil n'était pas le bon.
Des allées, des chants d'oiseaux, un cortège de manteaux noirs, désolé, sans un mot, en silence, en mouchoir. Tu nous manquais déjà, et ce n'était que le début. Il ne manquait que toi, notre chair disparue.
Raconte la chaîne de télévision WLBT3. Le 15 novembre. La personne y reposant avait bien été habillée des vêtements et des bijoux de Mary Jane Robinson, mais Georgia ne la reconnaissait pas. Serait-ce une grosse erreur commise par les pompes funèbres ? Je ne savais pas qui était dans le cercueil, poursuit-elle auprès de la chaîne dans une interview relayée par le New York Post. La famille se tourne alors vers le directeur des pompes funèbres qui se révèle très impoli et très indifférent, et estime même, d'après Georgia, que la famille doit tout payer à nouveau. La famille, évidemment, finira par obtenir gain de cause. Mais alors que Georgia avait réclamé qu'aucun des habits et accessoires portés par le mauvais défunt ne soit finalement transféré sur le corps de sa sœur, les pompes funèbres lui ont quand même mis ses boucles d'oreilles. Regrette-t-elle. Une erreur qui n'aura évidemment pas été sans conséquence pour Georgia, encore marquée par l'épisode. « Je me sens mal. Il suffit de penser que si nous avions eu un cercueil fermé, nous aurions fini par enterrer l'être cher de quelqu'un d'autre au lieu du nôtre », déplore-t-elle. Interrogée par WLBT3, l'établissement de pompes funèbres n'a pas souhaité confirmer ni infirmer l'histoire, se contentant d'assurer que la famille semblait satisfaite.
« Je pleurais à ton enterrement, je n'avais pas le choix. » Tu n'étais plus là comme avant pour rire avec moi.
Allez, toujours aux États-Unis, en Caroline du Nord, Gladwell Orthopedics, une chaîne de cabinets d'orthodontie, a lancé une promotion les 8 et 9 novembre dernier sur l'un de ses traitements de la marque Invalisigne, rapporte Le Parisien. C'est une marque qui permet, en fait, ou promet, en tout cas, d'aligner les dents à l'aide de gouttières transparentes. On peut qualifier cette campagne plutôt étonnante. En effet, en échange du traitement, le cabinet offrait un pistolet automatique Glock 19 qui coûte environ $500. Un abonnement à un club de tir était aussi proposé à ses clients.
À chaque citoyen, son flingue, amour du drapeau à con. Je rêve que vivent un jour, dans ce pays dégénéré, des centaines de Michael Moore, des Luther King par milliers. J'ai retrouvé mon flingue, il était dans mes rimes. Attention, je déglingue, je dégomme, j'extermine.
Cette initiative a suscité quelques réactions. Line Product, l'entreprise à l'origine du traitement, a affirmé dans un communiqué publié sur X qu'elle était en désaccord avec ce coup marketing. Line n'est pas impliquée dans le développement ou l'approbation de cette promotion et vient d'apprendre son existence. Et ce n'est pas la première fois que ce type d'offre apparaît aux États-Unis. En effet, l'entreprise Roof EZ, située en Floride et spécialisée dans les toitures, proposait à chacun de ses clients pendant une vingtaine de jours une dinde pour Thanksgiving et un fusil semi-automatique AR-15.
La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant.
Alors, vous savez que depuis 1994, la société spatiale américaine Celestis propose à ses clients d'envoyer leurs cendres dans l'espace, tantôt en orbite autour de la Terre, tantôt sur la Lune.
Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
Lors de son vol inaugural en 1997, l'entreprise a notamment transporté la dépouille incinérée de Gene Roddenberry, créateur de Star Trek, dans l'espace.
Espace, frontière de l'infini, vers laquelle voyage notre vaisseau spatial. Sa mission de 5 ans, explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations, et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
Et le 7 novembre dernier, le New York Times Magazine a dressé le portrait de sept clients de Celestis et les motivations de ces derniers sont assez diverses, mais celles du physicien Kenneth Holmes sont plutôt inhabituelles. En effet, l'octogénaire souhaite que ses cendres et son ADN soient envoyés au pôle sud de la Lune lors de la prochaine mission de la société. Ce libre penseur espère que des civilisations futures ou extraterrestres pourront ainsi ouvrir un zoo intergalactique avec un Ken Homme en cage. Il fantasme également la création d'un essaim de milliers de Ken Homme reconstitués qui se répandraient dans l'univers. Si les motivations de Kenneth Homme semblent loufoques, les avancées en matière de clonage sont en constante évolution, nous rappellent les médias. Les autres clients interrogés ont des objectifs plus poétiques. Ainsi, Daniel Konslick, pompier à New York, désire retrouver sa femme dans l'infinité de l'espace. L'ingénieur aérospatial Jeffrey Wojtar, qui a grandi avec la conquête de l'espace, souhaite lui aussi reposer pour l'éternité sur la surface lunaire. Et les réservations pour le vol spatial commémoratif Tranquility sont closes. Mais pour l'heure, aucune date de lancement n'a encore été fixée. Revenons en France avec les raisins du Troisième Reich, et c'est un nom qui a suscité l'indignation de plusieurs clients du Ventre, un restaurant situé dans le 11e arrondissement à Paris. Le 19 octobre, un journaliste a partagé sur X une photo de la carte de l'établissement avec une note « C'est quoi ce fétichisme nazi, Ventre ?» a alors interpellé le journaliste lorsqu'il a découvert que des vins de l'Allemagne nazie étaient proposés à la vente. C'est Libération qui nous raconte ça.
Et tout ça, ça fait de mauvais Français, pour lesquels il n'est que le porte-monnaie. Faut savoir être opportuniste, afin de sauvegarder ses petits intérêts.
Et contacté par BFM TV, en octobre, fin octobre, le gérant de Ventre, M. Pelletier, s'est dit très affecté par la polémique. Les bouteilles de vin en question figuraient sur la carte du restaurant depuis environ un an et demi, sans que personne ne s'en émeuve, a-t-il affirmé. Le sommelier, qui a chiné ses vins chez un collectionneur à qui restaient quelques bouteilles, plaide la naïveté et la maladresse. Et Marco Pelletier affirme ne pas faire l'apologie du nazisme. Oui, ces trois bouteilles correspondent à une des parts les plus sombres de notre histoire, indéniablement, a-t-il écrit sur son compte Instagram. C'est pour cela que ces vins ne sont pas mis en avant auprès du grand public. Ces vins sont uniquement présents à l'origine sur la carte du restaurant, un registre compilant l'ensemble des vins stockés dans notre cave qui n'est consulté que par les plus fins connaisseurs et passionnés de vin, a-t-il détaillé. Le sommelier, en effet, vendait des bouteilles Elscher Herren Cabinet, produites dans l'ouest de l'Allemagne, avec de très 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 jolies croix gammées en très très gros et des aigles nazis, entre 750 et 980 euros l'unité. Face à la polémique, il a décidé de retirer les vins de son inventaire.
D'autres encore, parmi tant de grosses têtes, ont dans l'épreuve complètement perdu pied. On les croyait très bien, ils étaient moches, et c'est ainsi qu'ils se sont révélés, en préférant faire des sourires aux boches, par calcul ou stupidité.
C'est un scénario qui est presque digne d'un film d'espionnage et qui a été révélé par le New York Post. Il visait à empoisonner 77 pilotes russes diplômés de l'école supérieure d'aviation militaire d'Armavir. Alors, les participants étaient réunis le temps d'un banquet organisé en l'honneur d'anciens élèves diplômés il y a 20 ans. Parmi eux, des pilotes occupant des grades élevés dans l'armée de l'air russe. Les festivités battaient leur plein. L'un livreur a apporté un énorme gâteau pesant près de 20 kilos et des caisses de whisky irlandais. L'homme aurait expliqué avoir été envoyé par des admirateurs reconnaissants alors que le gâteau de deux étages était en train d'être découpé et que les pilotes immortalisaient ce moment en prenant des photos.
Je suis sûr, Omar Reine, que le gâteau n'est pas empoisonné. Je crois même qu'il est très bon.
Mmh. Obélix, coupe trois parts de ce gâteau.
Certains ont commencé à réfléchir au nom de leurs généreux admirateurs. Le quotidien américain précise qu'un fonctionnaire de l'académie en charge de la sécurité a utilisé la vidéo de surveillance afin de faire identifier le livreur. En attendant d'avoir les résultats, le gâteau et les bouteilles d'alcool ont été mis de côté. Et effectivement, l'enquête de sécurité a permis d'établir que le livreur n'était autre qu'un certain Egor Semenov, un Ukrainien de 32 ans, originaire de la ville occupée de Mélitopol. Sans demander son reste, ce dernier aurait foncé à l'aéroport pour prendre la fuite. Mais il a été arrêté avant de pouvoir embarquer lors de son audition par les autorités russes. Il a avoué avoir empoisonné les mets livrés. On n'a pas de nouvelles de lui depuis. Et quelques brèves. Pris la main dans le jambon, deux personnes ont été arrêtées près de Madrid pour avoir volé près de 700 pièces de charcuterie ibérique de qualité supérieure, un produit phare en Espagne, annoncé la Guardia Civil le 27 novembre. La valeur totale du butin était estimée à près de 200 000 euros quand même, hein, pour des pièces d'une appellation d'origine contrôlée, les Pedroche.
Suspend un violon, un jambon à ta porte, et tu verras rappliquer les copains, tous tes soucis que le diable les emporte jusqu'à demain.
Un enfant de 3 ans a échappé à la surveillance de ses parents à l'aéroport Santiago du Chili le 16 novembre. Il s'est faufilé derrière un comptoir d'enregistrement avant de grimper sur l'un des tapis à bagages et de commencer à faire le tour de l'aéroport.
Voyage sans bagage comme un oiseau dans le soleil.
La régate des citrouilles de Casterly est un événement unique en Belgique. C'est une compétition de kayak dans de grandes citrouilles vidées de leur contenu. C'est une course improbable qui attire de nombreux curieux et demande de la préparation. Chaque année, nous commençons par de petites citrouilles et chaque année, nous récupérons les graines des plus grosses citrouilles et nous les mélangeons pour obtenir des citrouilles de plus en plus grosses. Cette année, nous avons des citrouilles de plus de 1000 kilos, a expliqué Gert Peters, l'organisateur et propriétaire du champ de citrouilles.
J'habite une maison citrouilleur, à petit peton, le soleil est rond. J'habite une maison citrouilleur, à petit peton, le soleil est rond.
À 104 ans, Dorothy Hofner n'a pas peur du vide ni des sensations fortes. Cette Américaine vient de battre le record du monde de la plus vieille parachutiste grâce à un saut de plus de 4000 mètres le dimanche 1er octobre près de Chicago.
T'as rien perdu de ton talent, tu rates pas une embuscade, mais comme on ne tire plus vraiment, tu trouves ça fade.
C'est peut-être pour ça que t'as les yeux tristes, parachutiste.
Et lors de la réunion du bureau de l'Assemblée nationale, la vice-présidente du groupe LFI, Caroline Fiat, provoquait la stupéfaction de ses collègues. Elle s'est plainte de ne pas disposer de voiture avec un gyrophare et un deux-tons, a rapporté le Canard enchaîné. Pourquoi les vice-présidents du Sénat en disposent et peuvent-ils emprunter les couloirs de bus? Et pourquoi à l'Assemblée nous ne le pouvons pas, a-t-elle demandé. Le président du groupe communiste, André Chassaigne, a abondé dans son sens. Ce n'est pas normal, on perd du temps. Le président des Républicains, Éric Ciotti, également membre du bureau de l'Assemblée nationale, a, à la suite de ses interventions, déclaré « Je vois qu'on sent bourgeoise à LFI ».
La Bastille est assiégée et la République est en danger. Dans Paris, à vélo, on dépasse les autos. À vélo, dans Paris, on dépasse les
Eh bien les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi ces infos insolites. Je vous retrouverai, je sais pas trop quand, hein. Je vais arrêter de donner des dates, mais sans doute dans quelques semaines pour de nouvelles infos improbables. D'ici là, portez-vous bien, écoutez des podcasts. Bisous, merci, à bientôt. Ciao, ciao. À bientôt pour de nouvelles aventures insolites.
C'était Nicolas Baltique. À très bientôt.